VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mardi 14 février 2017 en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Les titres: démission de Michael Flynn, conseiller du président Trump en matière de sécurité nationale. Entretien hier à la Maison-Blanche entre le président Trump et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Divergence de vue sur l'immigration. En République démocratique du Congo, presque deux semaines depuis la mort d'Étienne Tshisekedi, toujours pas de date pour le retour au Congo de la dépouille de l'opposant historique. Au Cameroun, ouverture hier à Yaoundé du procès de trois figures de la contestation anglophone poursuivies pour terrorisme. En Guinée, les enseignants de la fonction publique ont entamé une grève hier. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le conseiller présidentiel en matière de sécurité nationale, Michael Flynn, a démissionné. Selon certaines informations, il aurait délibérément induit en erreur les officiels de l'administration Trump sur ses contacts avec l'ambassadeur de la Russie aux États-Unis. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le départ de Flynn, moins d'un mois après l'investiture de Donald Trump, constitue un remaniement plutôt extraordinaire de la principale équipe de conseillers du président. Michael Flynn a été un partisan loyal de M. Trump pendant toute la campagne électorale, mais ses liens avec la Russie ont toujours suscité des soucis auprès des autres proches collaborateurs du président. Il avait d'abord dit aux conseillers de M. Trump qu'il n'avait pas discuté de sanctions avec l'ambassadeur russe pendant la transition. Se fondant sur ses assurances, le vice-président Mike Pence a défendu publiquement cette déclaration de Michael Flynn. Ce dernier devait dire bien plus tard aux officiels de la Maison-Blanche qu'il pouvait avoir discuté de sanctions avec l'ambassadeur. Dans sa lettre de démission, Flynn a expliqué que le cours frénétique des événements l'a amené à donner par inadvertance des informations incomplètes au vice-président sur ses contacts avec les Russes. Le général Keith Kellogg va assurer l'intérim au Conseil national de sécurité. Selon deux sources au courant de la situation, le département de la justice avait mis en garde l'administration contre les contacts de Michael Flynn avec la Russie et de possibles risques de chantage dans cette affaire compte tenu de ce que le ministère savait à ce sujet et qui contredisait les déclarations publiques.
Près de deux semaines après la mort d'Étienne Tshisekedi, aucune date pour le retour au Congo de la dépouille de l'opposant historique. Précision d'Anastasie Toudièche.
Selon son fils Félix Tshisekedi, la famille a proposé plusieurs lieux symboliques pour ériger un mausolée. Mais ces propositions ont été rejetées, selon lui, par le gouverneur de la ville, André Kimbuta, qui n'a à ce jour pas proposé d'alternative. La famille est par ailleurs très inquiète quant au risque de violence que pourraient engendrer des funérailles mal organisées. « Nous ne voulons pas de bain de sang. Étienne Tshisekedi était un homme de paix », a affirmé le fils de l'opposant. D'un point de vue plus politique, la famille estime que les obsèques devraient être organisées après la mise en œuvre effective de l'accord dit de la Saint-Sylvestre, qui prévoit la mise en place d'une transition politique jusqu'à la tenue de la présidentielle, une perspective qui semble désormais très incertaine.
Au Cameroun, le procès de trois figures de la contestation anglophone poursuivies pour terrorisme s'est ouvert hier devant le tribunal militaire de Yaoundé, mais a été aussitôt renvoyé au 23 mars. Précision de John Linden.
Le procès de Félix Agbor Ngonko, avocat, Neba Fondem Aforteka, enseignant, et Mancho BBC, dit BBC animateur de radio, arrêté en janvier, s'est ouvert en présence d'une multitude d'avocats. Plus de 160 se sont constitués pour assurer leur défense. Le procès, qui devait initialement commencer le 1er février, avait été reporté au 13 et maintenant est renvoyé au 23 mars. Les accusés sont poursuivis pour coaction d'actes de terrorisme, sécession, révolution, insurrection, incitation à la guerre civile, des charges passibles de la peine de mort. Lors de la première audience, les trois accusés ont plaidé non coupables. Leurs avocats se sont offusqués de l'irrespect des règles de procédure, demandant aux parties d'échanger les listes des témoins 5 jours avant l'ouverture du procès. Pour Maître Charles Tchungan, un de leurs avocats, ce procès touche à la liberté de penser, à la liberté de conscience. Depuis novembre, la contestation a gagné les deux régions anglophones du Cameroun, traditionnellement frondeuses envers le régime du président Paul Biya.
Les enseignants de la fonction publique en Guinée ont entamé une grève hier pour des hausses de salaire et la tutélarisation des vacataires. Nathalie Barge.
Les écoles sont fermées depuis le 1er février par le gouvernement à la suite de manifestations violentes d'élèves soutenant l'intégration d'enseignants vacataires. Mais le porte-parole du gouvernement, Albert Damantong Camara, a déclaré dimanche soir que les discussions avec les syndicats avançaient bien et a appelé à la reprise des cours. Toutefois, le mouvement de grève a été bien suivi hier à Conakry, où de nombreux établissements sont restés fermés, tandis que des élèves avaient installé des barricades et brûlé des pneus sur plusieurs artères, réclamant la reprise des cours. En banlieue, les étudiants ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre, qui ont riposté par des tirs de grenades lacrymogènes. La grève a été également suivie à Sigiri, Kindia, Labé, Gawal et Boké, où toutes les écoles étaient fermées hier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, profond désaccord entre le président Donald Trump et le premier ministre canadien Justin Trudeau sur les questions d'immigration. Monsieur Trump s'est félicité des mesures prises pour expulser les sans-papiers des États-Unis, tandis que Monsieur Trudeau a vanté les succès des réfugiés syriens au Canada. Nous reviendrons en seconde partie sur la conférence de presse tenue par Messieurs Trump et Trudeau. Le juge fédéral de Seattle, qui a bloqué le décret migratoire de Donald Trump, a rejeté hier une demande des avocats du président de retarder l'examen du dossier sur le fond. « Je ne suis pas prêt à ralentir », a déclaré le juge James Robert, cité par CNN. « Je suis un peu étonné, étant donné que le président a donné rendez-vous au tribunal », a ajouté le magistrat, en référence à un tweet de M. Trump. Par ailleurs, le Sénat a confirmé hier la nomination de Steven Mnuchin au poste de secrétaire au Trésor par 53 voix contre 47, avec les Républicains solidement derrière ce choix du président Trump et les démocrates farouchement opposés. M. Mnuchin a prêté serment peu de temps après à la Maison-Blanche. Le président Trump a qualifié la Corée du Nord de grand, grand problème après le dernier tir de missile balistique de Pyongyang. Et son administration traitera très énergiquement avec la Corée du Nord, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse hier avec M. Trudeau. Il n'a pas fourni de détails. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion à huis clos à la demande des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud. Dans une déclaration, ses 15 membres ont qualifié le tir de missile de grave violation de 6 résolutions des Nations Unies et des obligations internationales de la Corée du Nord. Changement radical à la tête du Hamas dans la bande de Gaza, ce mouvement islamiste radical a désigné hier un militaire à sa direction. Eric Manirakiza.
Yahya Sinwar est le nouveau chef du Hamas dans la bande de Gaza. Farouche partisan de la lutte armée, il tient une ligne plus dure vis-à-vis d'Israël. Contrairement à son prédécesseur Ismaël Haniyeh, qui privilégie la diplomatie, M. Sinwar reflète une militarisation de la direction du mouvement islamiste palestinien. En 1988, Israël l'a arrêté pour activité terroriste. Il a retrouvé sa liberté plus de 20 ans après, à la faveur d'un échange de prisonniers. Monsieur Sinwar figure aussi sur la liste de terroristes internationaux traqués par Washington depuis septembre 2015. Son accession à la tête du Hamas coïncide avec des discussions indirectes pour l'échange de 3 civils israéliens et des corps de 2 soldats israéliens. Depuis plusieurs mois, le Hamas renouvelle son bureau politique dont les militaires pèsent de plus en plus. Le politologue Gazoui Mouhaimer Abou Sada n'exclut pas un durcissement, voire l'escalade de la violence avec Israël.
C'est aujourd'hui la Saint-Valentin, célébrée un peu partout dans le monde. Mais si vous vivez au Pakistan, il faut savoir qu'un tribunal a interdit les festivités en public à Islamabad, la capitale. Jacques Aristide.
La haute cour d'Islamabad a donc tranché en faveur d'un requérant qui estime que sous couvert de fêter l'amour, c'est l'immoralité, la nudité et l'indécence qui sont promues, contrairement aux traditions et valeurs du Pakistan. Hier, cette cour a enjoint la presse, les chaînes de télévision et tous les médias de cesser de faire la promotion de la fête des amoureux dans un pays où la plupart des mariages sont arrangés. Malgré cette interdiction, les restaurants de la capitale ont continué à envoyer des SMS pour promouvoir leurs offres pour la Saint-Valentin, très populaire chez les jeunes, mais très mal perçue par beaucoup de Pakistanais qui la considèrent comme une fête de mauvais goût propre à la culture occidentale. Dans des villes plus conservatrices comme Peshawar, l'exécutif provincial a voté une résolution interdisant la fête des amoureux, qualifiée d'inutile et obscène. L'an dernier, le président Mamnoun Hussein avait appelé la jeunesse pakistanaise à ne pas célébrer la Saint-Valentin, estimant qu'elle n'a pas de lien avec la culture du pays.
La Minute Écho, Lionel Gahima.
La structure gouvernementale nigériane de gestion d'actifs Amcon a annoncé avoir pris le contrôle de la principale compagnie aérienne privée du pays afin de l'empêcher de déposer le bilan. Fondée en 2006, Arik Air assure environ 60% des vols intérieurs au Nigeria. En décembre 2016, la compagnie n'était pas en mesure de rembourser des prêts de 135 milliards de naira, soit 402 millions d'euros. Par ailleurs, les salaires du personnel ne sont plus payés depuis 8 mois, les assurances, la réparation et l'entretien de ces avions non plus. Le géant minier suisse Glencore et le groupe Fleurette ont annoncé hier soir avoir trouvé un accord pour la cession des participations de Fleurette dans 2 filiales minières opérant dans le sud de la RDC. Au terme de cette opération, Glencore contrôlera la totalité de la mine de cobalt de Mutanda et 86% des parts de la mine de cuivre du Katanga. En Côte d'Ivoire, les souscripteurs lésés de l'agrobusiness menacent de descendre dans la rue. Près de 37 000 personnes auraient souscrit à des investissements dans des sociétés de l'agroalimentaire attirées par les profits pouvant aller de 300 à 1000%. Mais selon les autorités ivoiriennes, une partie de cette entreprise aurait participé à une vaste escroquerie. Les souscripteurs ont donc prévu une grande manifestation le 18 février à Abidjan pour tenter de récupérer leur argent.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Reprise de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, le duel de prestige ce soir au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Coup dur pour les Parisiens puisque le capitaine et défenseur central Thiago Silva, victime d'une gêne persistante au mollet gauche, a dû déclarer forfait pour ce match. En revanche, Pastore est dans le groupe parisien, mais Thiago Motta, lui, est suspendu. Dans l'autre rencontre ce soir, le Borussia Dortmund de Pierre-Emerick Aubameyang face au Benfica Lisbonne et à suivre demain le Real Madrid qui accueille Naples et le Bayern de Munich face à Arsenal.
Le Portugal qui progresse à l'indice UEFA.
Le Portugal qui chippe pour un rien à la Russie, la 6e place de l'indice UEFA qui détermine, vous le savez, le nombre de clubs qualifiés en Coupe d'Europe et ce avant la reprise de la Ligue des Champions et de l'Europa League cette semaine. Le haut du classement reste lui dominé par l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie.
Décès du premier sélectionneur africain médaillé au JO.
Oui, le Ghanéen Sam Hardy est décédé dimanche des suites d'une courte maladie. Il avait 71 ans. Samuel Hemans Hardy, plus connu sous le nom de Sam Hardy, a été le premier coach à mener une équipe africaine sur un podium olympique. C'était lors du tournoi des JO de Barcelone. C'était en 1992. Le Ghana avait alors obtenu la médaille de bronze. Avec les moins de 17 ans ghanéens, Sam Hardy avait remporté la première édition de la CAN de la catégorie disputée au Mali en 1995. Et la même année, il avait gagné la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Équateur en battant en finale le Brésil 3-2. Enfin, Sam Hardy a également dirigé les Black Stars, la sélection des seniors du Ghana entre 1996 et 1997, puis 2004. Enfin, Idrissa, avec vous, les résultats du championnat de basket nord-américain, la NBA.
Philadelphia, Charlotte, 105-99. San Antonio, Indiana, 110-106. Memphis, Brooklyn Nets, 112-103. Orlando, Miami, 116-107. Oklahoma City, Washington, 98-120. Détroit, Milwaukee, 89-102. Boston, Dallas, 111-98. Golden State Warriors Denver 110-132, Elle est clippeuse Utah 8872 et New Orleans Pelicans et Phoenix 110-108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Première rencontre entre le président Donald Trump et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Les deux hommes se sont entretenus à la Maison-Blanche, notamment du commerce bilatéral et des dossiers brûlants tels que la sécurité et l'immigration. Gabi Dorsil nous fait un compte-rendu de leur conférence de presse.
Pas de geste de camaraderie, pas de complicité apparente, mais d'entrée de jeu, le chef de l'exécutif américain s'est voulu rassurant. « Nous voulons jeter plus de ponts entre les États-Unis et le Canada », a dit Donald Trump.
« Des ponts de coopération et des ponts de commerce. Nous sommes tous les deux engagés à offrir plus de prospérité et de perspectives d'avenir à nos populations. »
Les relations commerciales entre les deux voisins nord-américains ont dominé la conférence de presse. Pour Justin Trudeau, il s'agissait surtout de mettre en exergue ce qu'il appelle le caractère unique de ces relations.
Le Canada représente le plus grand marché d'exportation pour 35 États américains et nos économies profitent d'échanges commerciaux bilatéraux dont la valeur s'élève à 2 milliards de dollars à chaque jour. Des millions de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière dépendent de ce partenariat crucial. Entretenir des liens économiques solides est essentiel à notre succès mutuel et nous allons continuer de travailler ensemble au cours des prochaines années pour que les familles canadiennes et américaines puissent continuer à prospérer.
Des propos mesurés qui interviennent à un moment où certains secteurs au Canada s'interrogent sur les vraies intentions de M. Trump quant à l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, que le locataire de la Maison-Blanche a dit vouloir renégocier.
C'est une préoccupation pour bien les Canadiens parce qu'on sait à quel point notre économie est extrêmement dépendante des liens que nous avons avec les États-Unis. Les biens, les services qui traversent chaque direction de notre frontière veulent dire des millions de bons emplois pour les Canadiens. Mais des millions d'emplois aux États-Unis, des bons emplois pour la classe moyenne, dépendent aussi de ces bons liens économiques entre nos deux pays.
Toutefois, le président Trump a clairement indiqué sa volonté de ne pas trop perturber les liens économiques solides unissant les deux pays, réservant plutôt sa mise en garde pour le voisin du Sud, le Mexique.
Nous avons une relation commerciale vraiment remarquable avec le Canada. Nous allons l'ajuster, des petits raffinements à l'avantage des deux pays. C'est une situation beaucoup moins grave que ce qu'on a avec le Mexique. Pour bien des années, avec le Mexique, les transactions n'ont pas été vraiment équitables à l'égard des États-Unis. C'était vraiment un échange très inégal, très injuste. Nous allons rendre le commerce plus équitable entre le Mexique et les États-Unis.
Note discordante, l'immigration. Répondant à la question d'un journaliste, le chef du gouvernement canadien a joué la prudence. Sa politique d'ouverture sur l'accueil des réfugiés est à l'opposé des mesures d'interdiction et d'expulsion prises par Donald Trump. Mais, a rappelé Justin Trudeau, et nous citons, « La dernière chose que les Canadiens attendent de moi est que je vienne donner des leçons à un autre pays ». Fin de citation. Le président américain a, quant à lui, vanté les bienfaits de sa politique migratoire, disant qu'il ne fait qu'appliquer le vœu de ses mandants.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En Côte d'Ivoire, le syndicat de la presse privée a exigé hier la libération immédiate et sans condition de 6 journalistes ivoiriens arrêtés la veille pour divulgation de fausses nouvelles y voyant une atteinte flagrante à la liberté d'expression. Selon le procureur de la République, Richard Adou, l'arrestation de ces journalistes est liée au récent mouvement d'humeur des militaires au cours desquels certains organes de presse ont divulgué de fausses informations de nature à inciter les soldats à la révolte. Claire Morin-Gibourg a joint le secrétaire général du SINAP-CI, Guillaume Gbato.
Nous sommes un peu habitués à ce genre de situation en Côte d'Ivoire depuis malheureusement plusieurs années, mais avec le discours officiel, avec tout ce que nous avions entendu de la part du président de la République lui-même, c'est de la part de certaines autorités. Nous pensions que la période où des journalistes pouvaient se faire arrêter et être détenus était révolue. Malheureusement, pour nous, nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence que malheureusement, c'est une situation qui peut toujours arriver. Et cela nous a un peu surpris, cela nous, c'est ça que nous sommes un peu déçus de la tournure des événements, un peu frustrés même, j'allais dire.
Pour vous, il s'agit d'une, on peut le qualifier comme ça, d'une nouvelle chasse aux sorcières à l'encontre de journalistes qui étaient plutôt pro-Gbagbo?
Non, je pense que ce n'est pas cela. Je pense qu'il y a un vrai problème même avec les journaux dans l'ensemble, parce que ceux qui sont dans les liens de la détention sont un peu de toutes les lignes éditoriales. Quand on a écouté le ministre tout à l'heure, ce qu'on a eu comme sentiment, c'est que les pouvoirs publics ne comprennent pas que les journalistes soient vraiment donnés beaucoup de liberté par rapport à la gestion de la question des mutineries. Mais nous pensons qu'il n'appartient pas aux journalistes de cacher la vérité. Bien au contraire, notre métier, c'est de faire éclater la vérité pour que tous les concitoyens, tous nos compatriotes sachent ce qui se passe dans le pays, même si cela concerne l'armée. Parce que ce qu'on nous oppose, c'est que ce sont des questions sensibles liées à la défense nationale. Nous en convenons. Mais nous estimons en même temps que ces questions aussi préoccupent les Ivoiriens qui ont envie de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, et qui ont envie d'être aussi rassurés. Donc, je pense que ce n'est pas plutôt politique, mais c'est la nature même du travail des journalistes qui semble être remise en cause à haut niveau, et cela est un peu déplorable.
Est-ce que vous pensez que les journalistes, alors, ne peuvent plus travailler librement?
Ce serait une catastrophe pour notre pays si les journalistes devraient renoncer à faire leur métier convenablement. C'est ce que nous avons essayé d'expliquer au ministre Koné Bruno, pour lui dire que malgré la sensibilité des questions, il était important de pouvoir toujours permettre aux journalistes de faire leur métier en toute liberté et de pouvoir donner surtout des informations qui sont justes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut nous opposer une partie de la loi sur la presse, un article notamment qui fait référence au code pénal, mais nous pensons que cet article-là, nous l'avons toujours dénoncé, on a toujours combattu cet article. Nous estimons qu'aujourd'hui, on ne peut pas se prévaloir cet article pour priver les journalistes de leur droit fondamental qui est d'informer en toute objectivité et en toute sérénité, même si ce sont des questions sensibles, nous en convenons, mais il faut que ces questions sensibles soient traitées de façon équitable dans l'intérêt des populations qui ont envie de savoir pourquoi les gens se mutinent et quand ils se mutinent, qu'est-ce qui se passe et quel est le résultat. Est-ce que le gouvernement a réussi à trouver des solutions? C'est des questions que nos lecteurs et nos auditeurs se posent et auxquelles nous avons besoin des réponses à travers des articles qui sont vérifiés et sourcés.
C'était de Abidjan, Guillaume Gbato, secrétaire général du syndicat de la presse privée de Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, un affrontement intercommunautaire a fait des morts et des blessés à Mongo, chef-lieu de la région du Guéra, située dans le centre du pays. Et à N'Djamena, la capitale, trois jeunes accusés de vol d'une bouteille de gaz butane ont été soumis à un traitement inhumain et dégradant le week-end dernier. Précision d'André Kotmajingar.
À Mongo, dans la région du Guéra, tout est parti d'une dispute entre deux filles de différentes communautés. Une dispute qui s'est soldée par une bagarre mal gérée par les forces de l'ordre. Selon des sources indépendantes, il y a eu au total 4 morts et une dizaine de blessés, comme en témoigne une victime transférée à N'Djamena.
Ils disaient que les Guéras étaient des esclaves et puis nous, on n'a pas accepté. On a commencé à se manifester et puis ils ont amené des sécurités. Ils ont tué deux de nos collègues sur place et après on est parti pour récupérer le corps là. Ils ont commencé à tirer nous aussi. Leurs enfants aussi, c'est des élèves aussi comme nous, et puis ils rentrent à la maison, ils chargent leur tenue et puis viennent avec des armes et puis tirent. Au total, c'est au nombre de 4, les blessés 10.
Ce malheureux événement relance le débat sur l'épineuse question de la détention illégale des armes de guerre par une catégorie de Tchadiens. Selon des sources concordantes, le chef militaire par qui cet affrontement a déclenché aurait quitté la localité de manière clandestine. Joint au téléphone par VOA Afrique, le gouverneur de la région du Guéra, Mahamat Ali Abassala, a revu le bilan en baisse et parle des mesures sécuritaires prises pour amener les deux communautés à une cohabitation pacifique.
C'est une situation banale, nous déplorons deux morts. Plusieurs blessés légers. Grâce à Dieu, la situation est sous contrôle. Mais pour plus de prudence, pour la sécurité, on a permis les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre et d'effectuer des patrouilles en ville pour éviter des débordements. Donc nous avons demandé au procureur de mener ces enquêtes dans la sérénité mais avec célérité pour que les responsabilités soient situées.
Ici, à N'Djamena, la police du 2e arrondissement municipal l'a découvert vendredi dernier dans la forêt tués au quartier nord de la ville, deux jeunes dans un état agonissant avec des testicules agrafés à l'aide de cadenas. Après enquête, un troisième a été retrouvé ligoté dans une concession non loin de cette forêt. Transféré au pavillon des urgences sur ordre du procureur de la République, le médecin traitant a utilisé la meule pour casser les cadenas de leurs testicules. Réaction du procureur de la République, Mohamed Saleh Youssouf.
Le cas reste un état de droit. Il n'appartient pas à un individu de se rendre justice. Je crois que les auteurs de ces actes-là ne pouvons en aucun cas bénéficier d'une clémence quelconque. Ils doivent être gérés avec toute la rigueur possible. Le parquet que je dirige prendra toutes ses responsabilités.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Sur les quatre présumés arrêtés, un est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 200 000 francs CFA et les trois autres sont condamnés à 8 ans d'emprisonnement ferme avec 50 000 francs d'amende chacun. André Kodouma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Eh bien, le Sénégal est connu pour sa réputation de pays de grande tradition littéraire, avec notamment son premier président, le poète et ancien membre de l'Académie française, Feu Léopold Sédar Senghor, et aussi Alioune Diop, fondateur de la maison d'édition Présence africaine. Mais que dire de la nouvelle génération? Eh bien, une grande partie de cette génération n'aime pas lire, nous dit de Dakar notre correspondant Sedina Abagay.
Dans les établissements, le niveau de langue des élèves est en chute libre. La lecture est de plus en plus délaissée par les apprenants. M. Bey, professeur de lettres au collège Katurbam, estime que cela est dû à la disparition du support classique et à l'émergence d'une nouvelle concurrence.
Dans les écoles, traditionnellement, nous avions des bibliothèques, et même au niveau, n'est-ce pas, de certaines grandes villes qu'on appelait les centres culturels. Tout cela a presque disparu. Ensuite, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la concurrence aussi des nouveaux médias, que sont peut-être Internet, le téléphone portable avec les connexions qui sont facilitées, etc. Font que les élèves sont souvent accaparés par ces réseaux sociaux.
Ce professeur de français affirme aussi que l'environnement des familles africaines ne favorise pas la lecture.
Si on regarde aussi la configuration de nos maisons, la plupart du temps, les conditions aussi ne sont pas souvent réunies pour lire. C'est un peu des environnements trop exigus. Alors les gens donc n'ont pas souvent la concentration pour lire. Donc l'exil volontaire qui exige la lecture, nous ne l'avons plus parce qu'il y a beaucoup de facteurs bloquants.
Pour surmonter ces facteurs bloquants et redynamiser l'intérêt pour la lecture, le journaliste sénégalais Ababacar Sadiq Top a créé un programme audiovisuel dénommé Livre ouvert.
Dans nos émissions, les livres sur lesquels nous débattons, ce sont des auteurs, la plupart sénégalais et africains, qui les écrivent. On a débatte, on a discute pour attirer le téléspectateur sur les questions intéressantes qui peuvent se trouver dans les livres, mais aussi pour nourrir chez le téléspectateur une habitude orientée vers l'amour de la lecture et l'amour du livre.
L'intérêt pour le livre et la lecture est de moins en moins important au Sénégal. Beaucoup d'auteurs et de grands penseurs africains sont méconnus du grand public. Pour y remédier, beaucoup d'initiatives commencent à voir le jour, notamment l'intégration dans les programmes académiques des œuvres du grand penseur sénégalais Cheikh Anta Diop. À Dakar, pour la Voix de l'Amérique, Sedina Abagay.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.